dans le psaume 33 pour la lecture du passage de ce matin. Et puis, si jamais il y a des gens qui nous visitent ce matin et puis qui n'ont pas de Bible en main, sachez qu'ici, à l'Église de l'Espoir, on met une emphase spéciale sur l'enseignement de la parole de Dieu et je vous encourage à lever la main. Il y a des placeurs qui sont disponibles pour vous remettre une Bible. Si jamais vous n'avez pas de Bible pour suivre avec nous, gardez la main bien haute. Il y a quelqu'un ici qui a besoin. Et puis, jusqu'à ce qu'un placeur vienne vous porter une Bible pour puissiez suivre avec nous. Le psaume 33. Psaume 33. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie. Car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen.
Merci, Alex. On va se courber ensemble dans la prière. Éternel, notre Dieu, tu es le seul Dieu qui règne dans les cieux et sur la terre. Ta main, ta parole a créé toutes choses. Humblement, nous sommes assemblés ce matin pour nous arrêter et reconnaître que tu es Dieu. Reconnaître que toute bénédiction nous viennent de toi, Seigneur, que tu renouvelles chaque jour tes bontés, que ce printemps que nous revivons chaque année au Québec est dû à ta fidélité, Seigneur. Éternel, nous reconnaissons que tu soutiens toutes choses. Tu soutiens l'univers, Seigneur. Il suffirait d'un mot de ta bouche, Seigneur, pour que l'humanité ne soit plus. Nous sommes petits, Seigneur, devant toi. Et pourtant, dans ta grâce, dans ton amour infini, tu es venu pour nous racheter. Tu as déposé tes regards sur nous, Seigneur. Et tu es venu, Emmanuel, Dieu parmi nous, nous dire ton amour, Seigneur, te racheter un peuple que tu as choisi. Oh, nous sommes, Seigneur, les plus bénis des hommes de la terre. Parce que nous savons que tu es Dieu. Parce que tu as déposé tes regards sur nous. Viens, Père, nous rencontrer ce matin par ton Esprit Saint. Viens nous émerveiller par ta parole ce matin, Père. Seigneur, si des gens sont au milieu de nous et n'ont pas cette grâce dans leur cœur, de voir un cantique nouveau s'élever chaque matin pour chanter tes louanges et dire tes grandeurs, Seigneur, viens ce matin les rencontrer. Viens ouvrir les yeux de leur cœur afin qu'ils réalisent, Seigneur, leur petitesse devant toi. Seigneur, nous voulons amener devant toi ce matin notre frère Normand et notre sœur Lise, que nous aimons tendrement, Seigneur. Par le conseil de cette assemblée, les anciens de cette église croient que tu as placé sur leur cœur un appel nouveau pour ton œuvre, pour ton royaume. Encore faut-il, Seigneur, que l'église de Gatineau vienne prononcer son Amen. C'est ainsi que nous saurons, Seigneur, que ces projets viennent de toi, que ce ne sont pas des projets d'homme. Alors, on te prie d'accompagner, de bénir Normand ce matin, d'éclairer l'église là-bas, les anciens. Normand et Lise sont tes serviteurs, Seigneur. Et ils marchent sur cette terre comme des pèlerins. À ton service disponible. Viens les conduire là où tu voudras. J'aimerais te prier, Père, pour les frères et sœurs qui n'ont pu être ici ce matin, retenus par la maladie. Je pense à Mme Martin et à plusieurs autres, Seigneur. Viens les consoler alors qu'ils sont privés ce matin de cette communion avec l'Église. Place sur le cœur d'un frère, d'une sœur d'aller les visiter chacun d'entre eux cette semaine. Afin qu'ils vivent et savourent, Seigneur, l'amour du corps de Christ. Je te prie, Père, pour ceux qui sont venus ici ce matin avec l'esprit troublé, le cœur troublé par toutes sortes de soucis. Viens les rencontrer ce matin, Seigneur. Par les louanges, par la communion des saints, par le message de ta parole, Seigneur, viens les fortifier dans leur âme. Ramène leur regard sur toi, Seigneur. Bénis nos enfants, Père, qui entendent le message de ta parole ce matin dans cette classe. Sois avec eux. Nous ne pouvons pas, Seigneur, leur donner un esprit nouveau, les conduire au salut sans l'intervention de ton esprit. C'est toi qui sauves, Seigneur. Je prie pour tous les enfants de cette assemblée. Je prie pour tous les jeunes gens de cette église qui n'ont pas encore pris cette décision de passer par les eaux du baptême afin de déclarer publiquement leur foi pour Jésus-Christ. Seigneur, viens saisir leur cœur, qu'ils n'aient point honte de toi ici-bas, afin que tu n'aies point honte d'eux devant ton Père. Enfin, Seigneur, je te prie pour moi, parce que j'ai besoin d'être rempli de ton esprit ce matin. Je suis un pécheur, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit et viens appliquer le message de ta parole à chacune de nos vies ce matin. Que nous repartions de cette réunion avec un cantique nouveau dans notre cœur. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. 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 Psaume 33. Merci Alexandre pour la lecture. Pourquoi est-ce qu'on est dans le psaume 33 ce matin? Parce que je n'ai pas eu le temps de préparer un message. Non, ce n'est pas vrai. Pourquoi est-ce qu'on est dans le psaume 33? Cette semaine, j'étais dans la prière au début de la semaine, puis la semaine dernière, puis je demandais au Seigneur, je demandais à Dieu, qu'est-ce que je dois dire, Seigneur, à une assemblée qui apprend une nouvelle comme celle de la semaine dernière? On a une église mature, hein? Normand est comme, puis tout le conseil, on est resté un peu, OK. Personne qui panique ici? Qu'est-ce qui se passe? On a une assemblée mature, mais quand même. Je l'ai partagé la semaine dernière avec Timothée. Nos cœurs sont attachés. On ne peut pas apprendre des nouvelles comme ça puis être dans l'indifférence si on aime les frères et sœurs et si on chérit l'Église de Christ et si on aime le message de la parole. Alors, je demandais au Seigneur, mais qu'est-ce qu'on dit à une assemblée comme ça? Ce n'est pas le temps de parler de demain. Ce n'est pas le temps de parler d'où s'en va cette Église. Qu'est-ce qu'on dit? Et si vous faites si vous suivez le plan de lecture avec nous, mais vous avez lu dernièrement le psaume 33. Et cette semaine, j'étais en train de lire le psaume 33 alors que je cherchais la face de Dieu sur ce message à préparer. Et puis, Dieu est venu me bénir dans le psaume 33. Il m'a parlé de lui. Et je pense que c'est ça que la réponse que Dieu m'a donnée. Qu'est-ce que tu dis à une église qui apprend des nouvelles un peu déstabilisantes? Je pense que Dieu m'a dit, parle-leur de moi. Parle-leur de moi, Yannick. Pas du royaume, pas de demain, pas des projets. Parle-leur de moi, Yannick. C'est ce que Dieu a fait avec moi. Et pendant que je lisais le psaume 33, toutes sortes de passages du Nouveau Testament venaient à mon esprit. Puis Dieu m'a fait du bien. Dieu m'a fortifié dans ce psaume. Dieu m'a fait du bien. J'aimerais attirer votre attention premièrement sur le verset 1. Hein. On commence d'habitude avec le verset 1. Parce qu'on va dans un passage. Mais regardez bien ce que le psalmiste dit ici. Il donne une directive pour commencer. Il nous donne un commandement. Il vous donne un commandement. Si vous pouvez vous identifier avec le premier mot de ce psaume. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. Alors on va établir tout de suite, c'est quoi le juste? C'est qui le juste? Ce n'est pas celui qui ne pèche pas. Le juste dans l'Ancien Testament, c'est tout homme, toute femme qui a résolu dans son cœur de marcher avec Dieu. Point. Le juste, c'est celui qui a saisi que Dieu lui-même est juste, que Dieu aime la justice. C'est celui qui a été attentif à ce Dieu et qui a dit, « Je choisis de marcher moi-même dans la justice. » Imparfaitement. Comme un pécheur, comme quelqu'un qui va tomber et tomber et tomber encore, mais qui a cette conscience, cette sensibilité dans son esprit et dans son cœur que Dieu aime la justice. Voilà ce qu'est le juste, cet homme et cette femme qui cherchent à marcher selon les commandements de Dieu. Alors le psalmiste nous donne un commandement à nous et il nous dit, juste, réjouissez-vous en l'Éternel. Mais c'est la deuxième phrase qui a vraiment attiré mon attention cette semaine. La première fois que j'ai commencé à lire ce psaume, il fait une observation. Il fait juste une observation. Il dit, « La louange sied aux hommes droits. Ce qui convient à celui qui veut marcher dans la justice, les hommes droits ici, c'est encore une fois le juste, c'est simplement celui qui veut marcher avec Dieu. Mais il dit, quand tu vois quelqu'un qui veut marcher avec Dieu, il me semble, que ce qui lui va bien, c'est la louange. Quand tu vois quelqu'un qui veut marcher avec Dieu, ce qui devrait te venir à l'esprit, c'est de voir la louange sur son visage, dans sa bouche, de voir de la réjouissance dans son cœur. C'est ça qui convient à ces gens. Je continue verset 2. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Peut-être la guitare électrique aussi. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le avec le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. Comprenez que celui qui ne connaît pas Dieu, celui qui n'a aucune crainte pour l'Éternel, celui qui ne respecte pas Dieu, ne pourra jamais jouer d'un instrument comme un enfant de Dieu. Jamais. Les meilleurs artistes qui sont capables d'entrer dans une espèce de sentiment, d'émotion, d'être portés par la musique à ce moment-là, ne pourront jamais, les plus sensibles d'entre eux, jamais ils ne pourront jouer de la musique comme un enfant de Dieu va pouvoir le faire. Parce que lorsqu'un enfant de Dieu commence à faire retentir les cymbales, jouer de la guitare, aller plaquer des accords sur le clavier et qu'il a les regards fixés sur la personne de Dieu, c'est un chant de louange qui est en train de faire monter. Le psalmiste nous dit ici que notre louange devrait se renouveler sans cesse. C'est ça qui est question lorsqu'il est en train de dire « Chantez-lui un cantique nouveau ». Un cantique nouveau devrait venir dans notre cœur quotidiennement lorsqu'on se lève. Il est question d'un cantique nouveau à différents endroits dans l'Ancien Testament, d'autres psaumes, certains textes prophétiques, mais dans le Nouveau Testament aussi. Il est question de ce cantique nouveau. Et ce sont des louanges fraîches, nouvelles qui viennent dans notre cœur lorsque nous considérons la grandeur de Dieu. Un cantique nouveau devrait venir quotidiennement sur notre cœur. Maintenant, remarquez que ça ne va pas de soi. Ce n'est pas toujours automatique. Le psalmiste ici est en train de rappeler au juste qui est censé chanter un cantique nouveau. Ça implique que ça ne vient pas toujours automatiquement. Ça implique que le juste oublie parfois ce qui devrait amener en lui des louanges, des réjouissances, de la célébration. Son regard se détourne parfois. Il est en train de l'exhorter. Paul nous exhorte nous aussi dans la lettre aux Éphésiens lorsqu'il dit « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Paul estime qu'il doit rappeler aux chrétiens qu'on doit s'entretenir. C'est un peu ça qu'on fait le dimanche matin. C'est ça qu'on fait lorsque vous arrivez ici, puis vous avez vu Oscar être au piano ce matin. C'est agréable. Puis les musiciens vous attendent et puis ils se sont préparés pour vous conduire dans la louange. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Bien sûr, parce qu'on veut louer Dieu, mais parce qu'on sait aussi, peut-être que notre regard s'est détourné de Dieu pendant la semaine. Il y a des soucis qui sont venus sur notre cœur. Ces cantiques-là, ce n'est pas de la musique avant le sermon. On n'est pas en train d'occuper du temps. Nous sommes en train de nous exhorter les uns les autres. On est en train de se dire l'un à l'autre, « Hey, est-ce que tu connais, est-ce que tu te rappelles que Dieu est grand? Est-ce que tu te rappelles des bontés de Dieu? Rappelle-toi, considère sa miséricorde qui dure encore, encore, encore. Et aujourd'hui, tu peux célébrer l'Éternel. » Nous sommes en train de nous exhorter les uns les autres. C'est ça qu'on est en train de faire, exactement ce que le psalmiste fait ici. Parce que parfois, les enfants de Dieu perdent ce cantique nouveau. Ils se lèvent le matin, ils sont accaparés par toutes sortes de soucis et ils oublient les bontés de Dieu et perdent ce cantique nouveau qui devrait venir chaque matin sur nos lèvres, dans notre cœur, chaque jour, constamment. Maintenant, je ne suis pas en train de dire ici qu'on ne pleure pas. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de souffrance, qu'il n'y a pas de douleur, que c'est toujours la joie. Je ne pense pas que ce soit votre expérience, ce n'est pas la mienne en tout cas. Je ne suis pas en train de dire que lorsque tu deviens chrétien, tout va bien, puis alléluia, plus de problèmes, plus d'obstacles, plus d'épreuves. Non, on a plein d'autres passages même qui nous exhortent à pleurer. On devrait pleurer les uns avec les autres. On devrait porter les fardeaux les uns des autres. On devrait pleurer sur notre ville, sur ce monde qui manifeste son indifférence à Dieu, ou pleurer sur nos enfants lorsqu'on voit que leur cœur n'est pas malléable et leur cœur semble imperméable à la parole de Dieu. On leur adresse une exhortation, puis tu as l'impression que ça vient de tomber sur du béton. Ça ne pénètre pas une terre qui est prête à recevoir la parole. On devrait se mettre à pleurer. On devrait vivre de la tristesse. Mais en même temps, pour celui qui est un enfant de Dieu, il y a une trame de fond. Il y a un tableau qui est derrière tout ce qui se passe, qui est derrière là. Et cette trame de fond-là, c'est de la louange. C'est ce qui fait que Paul nous dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Yeah, sure. C'est sûr. Je suis sûr que tu te réjouissais, toi, en prison. Oui. Il avait le droit de le dire quand même, il vivait, hein? Il chantait des louanges en prison. Non, mais tu sais, je veux dire, quand tu as des proches qui partent, comment tu fais? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il y a une trame de fond. Parce que nous ne vivons pas pour maintenant, pour ici. Nous vivons pour l'éternité. Il y a une trame de joie et de louange qui est là derrière tous les petits moments, les petits événements, les larmes, les tristesses, les épreuves. Il y a quelque chose qui est derrière ça. Et ça, c'est de la louange. Ça, c'est de la joie. Ça, c'est une réjouissance. Ça, c'est un cantique nouveau qui se renouvelle chaque matin, qui vient sur nos lèvres. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il nous exhorte à se réjouir comme ça? Pourquoi est-ce qu'on devrait avoir un cantique nouveau, lui particulièrement? Je peux trouver toutes sortes de raisons dans les Écritures. Je pourrais vous parler de Jésus, qui nous a sauvés pour l'éternité. Mais lui, pour marquer qu'on est dans l'Ancien Testament, l'auteur de ces lignes est un Hébreu. C'est un Israélite qui a vécu pas après la venue de Jésus-Christ, avant la venue de Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui n'a même pas connu le salut en Jésus. Ce n'est certainement pas un chrétien du 21e siècle qui vivrait dans un pays d'abondance comme celui-ci, dans des conditions de vie dans lesquelles on vit. Alors pourquoi est-ce que lui nous dit que le juste devrait avoir constamment des louanges sur son cœur, constamment des louanges sur sa bouche? Regardez la suite du texte. Verset 4. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. En un mot, pourquoi est-ce que le juste devrait se réjouir? C'est parce que Dieu est souverain et parce que sa bonté remplit toute la terre. Le juste observe la vie, observe ce qu'il y a autour de lui et il voit les bontés de Dieu partout sur la terre. Ce matin, lorsqu'on est arrivé ici à l'Assemblée, il y avait Nathalie et Jonathan qui arrivaient avec le petit Josué. Daniel, la première, excusez-moi, il y en a tellement. Comment ça en a beaucoup? Josué, Marcille, merci. Il n'y en a pas d'autres, non? La première chose que Nathalie nous a dit, c'est « Hey, il a commencé à marcher à quatre pattes. » Fait que tout de suite, qu'est-ce qu'on voulait? On voulait qu'elle déshabille et qu'elle l'installe. Puis là, on voulait le voir commencer à avancer. Puis lorsqu'on l'a vu commencer à avancer à quatre pattes, tout le monde était émerveillé. Parce que les bontés de l'Éternel remplissent la terre. Ce matin, je me suis levé, puis je suis allé ramasser des choses dans mon bureau, puis j'ai vu mon pommier derrière. Puis là, mes bourgeons ont commencé à se transformer en boutons. Mon pommier est comme un grand parapluie. C'est un espèce de vieux pommier assez immense. Puis là, il est rempli de boutons verts. Je sais ce qui s'en vient après. Je suis allé voir après ça les enfants, puis j'ai dit, « Hey, les enfants, vous irez voir le pommier. » Les boutons sont en train d'éclore, c'est de toute beauté. Les bontés de l'Éternel remplissent toute la terre. Cette semaine, on était ici, puis on était à la conférence, et puis à un certain moment donné, juste de l'autre bord des portes, là, il y avait Mark Dever, conférencier, un pasteur d'une église aux États-Unis, 900 personnes, doctorant en histoire de l'Église, conférencier international, tu sais, big shot. Il était assis là à une table, puis il était en train de jaser avec des étudiants comme ça. Et puis Yvon m'a dit, tu vois Yannick, Yvon Gosselin m'a dit, ça m'a touché. Il m'a dit, tu vois Yannick, c'est ça la différence entre le monde et l'Église. Dans le monde, le conférencier ne serait pas là en train de parler avec n'importe qui. Mais Marc, c'est un enfant de Dieu qui est en communion avec l'Église de Christ, c'est tout. C'est juste ça, un pécheur gracié. Les bontés de l'Éternel remplissent la terre dans la communion des frères. Lorsque des amis vont ensemble puis qu'il y a un sourire qui apparaît sur leurs lèvres, lorsque je revois quelqu'un qui est proche et que je jouis des relations humaines, ce sont les bontés de l'Éternel qui remplissent toute la terre. Dieu fait tout à perfection. Ses bontés sont partout sur la terre. On vit au Canada. Les Haïtiens pensent qu'on a des frères haïtiens ici. Vous pensez que le paradis, c'est à quelque part en Haïti, mais c'est ici. Parce que là-bas, vous oubliez les bontés de Dieu. Nous autres, on a le privilège d'oublier qu'est-ce que ça sent les fleurs. Là, le printemps arrive. On a presque oublié le parfum des lilas. Ça sent bien. Puis là, on va sentir le parfum des lilas. Les bontés de l'Éternel remplissent la terre. Dieu n'a pas fait la terre comme une espèce de caillou, puis tu sais, comme plate, puis dur. Puis il ne nous a pas créés comme des îlots qui vivons tous séparés. Nous jouissons de relations à l'image de Dieu. Les bontés de l'Éternel remplissent la terre. Et lorsque tu commences à considérer toutes ces bontés, tu réalises que Dieu est là. Quelle devrait être la réaction sensée? Quand tu regardes toutes les bontés de Dieu partout sur la terre, quelle devrait être la réaction lorsque ton épouse te donne un petit enfant, puis tu prends ton bébé pour la première fois dans tes bras, puis tu regardes, tu tais. Il y a un silence qui s'installe dans ton cœur. Il y a une espèce de respect qui est là, puis tu dis, « Merci. » Merci, Seigneur. C'est toi qui as fait ça. Je m'adresse un instant à nos amis qui sont peut-être pas chrétiens. Et si vous doutez de l'existence de Dieu, voyez, vous avez deux options. Hein. Quand vous avez un enfant, un petit bébé, puis que vous le prenez dans vos bras pour la première fois, il y a deux options. Tu prends ce petit enfant, tu es émerveillé devant cette petite chose-là magnifique, extraordinaire. Puis dans ton cœur, tu dis merci. C'est magnifique ce que tu as créé. À mes yeux, à moi, l'autre option est triste. Tu le regardes puis tu dis, c'est un bel accident cette affaire-là. Un paquet d'atomes, sans aucun sens, sans aucun but. C'est un accident qui n'a aucune raison d'être. Puis lorsqu'il disparaîtra, ça ne change rien. Personne n'est derrière cette créature. C'est un accident. Selon le psalmiste, l'intelligence et la sagesse, devant la grandeur du monde et les bontés de l'Éternel qui sont partout sur la terre, c'est de se taire et de se réjouir. Lorsque tu commences à considérer les bontés de l'Éternel, tu commences à voir la grandeur de ce que Dieu a créé. Ici, il parle des armées des cieux. Il fait référence à tous les cieux avec toutes les étoiles. Et là, tu considères la grandeur de ce que Dieu a créé. Simplement le nombre d'êtres humains qu'il y a sur la terre, tous différents les uns des autres. Moi, je suis en avant. Il y a juste une personne qui est ici en avant, mais je suis en train de m'adresser à quoi? 200, 250 personnes qui ont tous des idées différentes à ce moment-ci. Chacune de vos pensées sont différentes, avec un vécu, avec une histoire différente. Il n'y a aucune autre Esther Étier avec son histoire sur toute la terre. Il n'y a aucun autre Yannick, aucun autre Yvon sur toute la terre. Tu commences à considérer cela. Mon professeur de philo, Chektip, je l'aimais beaucoup, lui disait « Chaque être humain est un univers en soi ». Puis lorsque tu commences à penser à tout ce qui se passe dans notre esprit, vous êtes tous ici, là, puis il y en a peut-être la moitié qui ne sont même pas ici. Ouais, j'espère qu'il y en a un petit peu plus qui sont avec moi. Là. Bon, OK, vous êtes revenus, merci. C'est bon. Restez avec moi quand un petit peu. Mais vous pourriez être ailleurs. Parce que vous avez une histoire qui est différente de la mienne, puis il s'est passé d'autres choses dans votre vie. Vous avez d'autres soucis. Demain, votre demain ne ressemblera pas au mien. Tous des univers différents. Quand tu commences à considérer tout cela, tu commences à voir que tu es tout petit. Devant cet univers, devant ces milliards d'êtres humains avec leur histoire, tu commences à réaliser que tu es tout petit. Tu es microscopique. Tu es minuscule. Puis en plus, tu mets ça dans la ligne du temps, cette histoire-là, puis tu réalises que ta course à toi est tout petite. Encore quelques années, c'est parti. Quelques années de plus, je ne serai même plus dans le souvenir de personne. Sinon dans le souvenir de Dieu. Alors, qu'est-ce qui devrait s'installer? Regardez ce que le psalmiste dit. Au verset 8. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Devant cet univers magnifique qui nous parle des bontés de Dieu. Ça ne nous parle pas juste d'accidents. Ce n'est pas vrai. Si vous dites ça, peut-être que vous n'avez pas d'enfant. Peut-être que vous n'avez pas eu un petit Bastien qui vous a accueilli et qui vous a sauté d'un bras. Mais devant tout cela qui nous parle des bontés de Dieu et toute la grandeur de cette création de Dieu, là, tu réalises la grandeur de Dieu. Quel sentiment devrait venir dans mon cœur? Le proverbe dit que la sagesse... Hein? La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La réaction sensée et sage, c'est de réaliser ma petitesse et d'avoir ce saint respect qui s'installe dans mon cœur devant Dieu, réalisant combien je suis petit. Combien, si j'existe, c'est seulement par la grâce de Dieu, simplement parce que Dieu intervient dans ma vie, parce que Dieu me soutient. Il y a un respect. Là, une crainte de Dieu. Je sais que je vis sous son regard et que je ne suis qu'une poussière dans cette histoire-là. Tout petit, un passage. Pas de l'arrogance, un point vers le ciel. Et pourtant, depuis la chute, l'homme lève le poing vers le ciel, arrogant. Devant toute la grandeur de cette création et le fait qu'il est tout petit, la prétention qu'il va réussir à se monter sa propre tour de Babel et supplanter Dieu depuis la chute de l'homme. C'est dans le cœur de nos enfants. C'est dans le cœur de nos petits-enfants. La société québécoise a changé beaucoup à travers les dernières années. Et on est même plus surpris si je m'avance dans une rue avec ma voiture, puis il y a des petits gars de 8, 10 ans, 9 ans, 7 ans qui sont en train de jouer au hockey. Puis là, ben, pauvre petit bonhomme, il faut que je passe. Fait que je les dérange. Si je les dérange, ça se peut qu'ils m'envoient promener. J'ai une voiture, je pèse 4 fois leur poids, je fais 2 fois leur grandeur, puis ils m'envoient promener. Hello? Je suis chrétien, c'est correct, c'est beau. Quelle arrogance dans le cœur de nos enfants! Mais c'est le même péché, c'est la même arrogance qui est là dans le cœur de tous les hommes qui lèvent le poing vers Dieu et qui disent « Rien à faire de toi, bonhomme. Tu n'existes même pas. Puis moi, là, j'ai pas besoin de toi. Parce que moi, je vais laisser ma main dans l'histoire de l'humanité. » Et des nations s'élèvent comme ça, avec cette arrogance de dire « On va prendre le contrôle de notre destinée en main. » Depuis la chute de l'homme, les hommes se rassemblent, fondent des nations et décident qu'ils vont prendre leur destinée en main, comme si vraiment on avait un contrôle sur notre destinée. Mais les nations s'élèvent et les nations tombent. Que ce soit l'Empire perse, que ce soit l'Empire romain, que ce soit l'Union soviétique, que ce soit les États-Unis. Est-ce qu'on n'est pas à une époque où on peut réaliser la fragilité de l'être humain? Tout le monde est sur le bout de sa chaise en train de surveiller ça, puis en espérant que tout le monde va croire que ça va bien se passer. Il y a un président qui vient juste d'être élu avec un mot. Espoir. Hope. Parce qu'on a de besoin. Parce que si cette nation-là tombe, tout va s'effondrer. Même la Chine est nerveuse. On est quand même à une époque pour réaliser la fragilité de l'être humain. Dieu renverse les nations comme il le désire. Sa parole demeure. Ce que lui dit s'accomplit. Les nations s'élèvent et sont renversées selon le bon désir de Dieu. C'est ce qu'il dit ici. Regardez le verset 8. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. L'homme n'a pas le contrôle de sa destinée. L'homme est responsable de ses choix. Il n'a pas le contrôle de sa destinée. Les nations n'ont pas le contrôle de leur destinée. On a besoin de le croire. Il s'agit qu'il arrive un monsieur, sauf tout le respect que je lui dois, comme Barack Obama. Puis là, on a un espoir, on a un sauveur. Là, il va tout rétablir ça, puis chouf, les États-Unis vont être sauvés. Non, dans le fond de notre esprit, on se dit peut-être qu'il va juste comme retarder l'affaire un petit peu. C'est ça le fond de notre pensée. Mais on a besoin de croire, on a besoin de sauveur. Les nations sont renversées selon le bon désir de Dieu. Et suite à leur arrogance, Dieu renverse les nations. Dieu renverse les nations. Mais sa parole à lui demeure. Ses desseins à lui s'accomplissent. Dieu fait des projets et ses projets à lui s'accomplissent. Voyez-vous, celui qui a écrit ces lignes, le psalmiste qui a écrit ces lignes ici, savait de quoi il parlait. Un peu plus loin, il dit que ce n'est pas dans la grandeur des armées que la force du roi se trouve. C'est dans le regard de Dieu. Le peuple que Dieu choisit selon ses desseins sera béni et protégé. Et celui qui a écrit ces lignes savait de quoi il parlait. Je vous rappelle, c'est un Israélite qui vit probablement en Israël à ce moment-là. Alors, eux pouvaient regarder en arrière. Et il savait que Dieu accomplit ses desseins selon ses promesses, selon les projets de son cœur. Regardez la différence avec les projets de Dieu. Verset 11. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Ce que Dieu projette de faire va s'accomplir. Et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Israël savait cela parce que Dieu avait choisi un berger, un éleveur, Abraham, nomade, un immigrant expatrié. Puis il lui avait donné une promesse qui n'avait pas d'allure. De toi, sans patrie, je vais faire naître une grande nation. OK, ça c'est la promesse. Ça c'est les projets de Dieu, c'est les desseins de Dieu. Maintenant, le psalmiste, lorsqu'il écrit cela, il est en Israël. Lui peut regarder en arrière. Il se rappelle des promesses faites à son père, Abraham, à leur père, à tous ces Israélites, Abraham. Et à cette petite famille, fils d'Isaac, Jacob et ses fils qui s'en vont en Égypte, toute petite famille, qui vont se multiplier en Égypte pour devenir un grand peuple, mais utilisés comme des esclaves pour faire des basses besognes. Pas une armée puissante, pas d'épée pour sortir de là, renverser le puissant peuple égyptien. Qu'est-ce qui arrive? Les promesses, où sont-elles? Les projets de Dieu, les desseins de Dieu, où sont-elles? Où sont-ils? Cet Israélite, lorsqu'il écrit ces lignes, peut regarder en arrière et dire, Dieu est fidèle. Parce qu'il se rappelle de la délivrance que Dieu a accordée à Israël. Le peuple devenu nombreux qui est sorti d'Égypte sans épée, sans combat, simplement parce que Dieu les avait choisis, parce que Dieu avait projeté dans son cœur de bénir les descendants d'Abraham. Les projets du cœur de Dieu s'accomplissent. Ils pouvaient regarder en arrière et ils se rappelaient de leur délivrance lorsque Dieu les a rachetés, délivrés de l'esclavage en Égypte, pour ensuite les amener vers un pays extraordinaire, peuplé de peuples immenses, des géants. Cette semaine, j'étais avec des géants. Quand j'étais à côté de Mark Dever puis de Matt Schmucker, il arrivait derrière nous et il disait « Hey, little guy! » Ah oh, ouais, c'est correct. J'avais le goût de dire « You, Philistine! » Des géants! Avec des armées qui étaient prêtes, aguerries pour le combat, Israël, des esclaves. Non, pas prêts pour le combat. Dieu accomplit ses projets, ses desseins. Dieu leur a donné la victoire, il leur a donné un territoire magnifique. Il les a bénis, il les a fait prospérer. Les projets du cœur de Dieu s'accomplissent. Ce n'est pas dans la puissance des armées, ce n'est pas dans l'arrogance du roi. C'est dans le cœur de Dieu. Et la nation, le peuple que Dieu choisit est celle qui sera bénie. Le psalmiste se rappelle de ces choses. Et c'est pour ça qu'il a de la louange sur son cœur. Il place toutes choses comme elle devrait être vue. Et il sait que les bontés de Dieu remplissent la terre. Il sait que Dieu est parfaitement souverain. Tous ses desseins s'accomplissent comme il le désire. Et il marche dans cette crainte, dans ce respect de Dieu. Si je suis si petit, et si Dieu est si grand, il observe tout ce qui se passe sur la terre. Regardez la suite du psaume. L'Éternel, verset 13, regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme, tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à leurs actions. Si je suis si petit et si la terre est remplie des bontés de Dieu, c'est que Dieu voit tout. Et Dieu est là, il scrute la terre, il observe la terre. Ici, il voit un point levé vers le ciel. Maintenant, qu'est-ce qui retient son attention? Ici, il voit une nation arrogante. Ici, il voit un peuple qui publie des livres pour dire que Dieu n'existe pas, puis on va prendre notre destinée en main. On va conquérir la terre. Non, depuis des siècles, Dieu voit des rois qui apparaissent et qui disparaissent. Des nations qui s'élèvent et qui sont renversées selon son bon plaisir. Lorsque le péché atteint ses limites et que Dieu trace la ligne, la nation s'effondre à cause de leur arrogance. C'est ce qu'on voit partout dans l'Ancien Testament, constamment. Mais regardez ce qui retient l'attention de Dieu. Verset 18. « Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. » Dieu est là du haut des cieux. Il considère toute la terre. Il voit tous les hommes qui vivent, chacune de nos actions. Ouh! Si tu crains l'Éternel, ça fait trembler un peu. chacune des actions des hommes. Il voit tout, il observe tout. Et alors qu'il regarde toute la terre, son regard s'arrête chaque fois qu'il voit un homme ou une femme qui a appris à rester en silence devant l'Éternel. Un homme ou une femme qui, devant les bontés de Dieu, commence à louer l'Éternel et à dire, « Seigneur, tu es merveilleux. Dieu, tu es grand. Tes bontés durent à toujours. » Et là, son regard est attiré. Sa bénédiction vient sur celui qui craint l'Éternel, celui qui marche avec l'Éternel, celui qui veut glorifier Dieu. Alors, regardez la fin du psaume. Verset 18, toujours, « Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. » C'est vraiment intéressant parce que dans le verset ici, on peut comprendre c'est quoi la crainte de Dieu. Ce n'est pas marcher en tremblant. C'est marcher en disant merci pour les bontés de Dieu plutôt qu'en étant arrogant puis en disant « Merci Yannick, tu m'as eu un beau lunch aujourd'hui. » On s'est espéré en Dieu pour ses bontés. Verset 19, « Afin d'arracher leur âme à la mort, ils espèrent dans la bonté de Dieu parce que c'est lui qui peut arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours. Pas les nations, pas le roi, pas mon bras, pas ma force. L'Éternel est notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie. » Car nous avons confiance en son saint nom. Et là, le psalmiste termine en renouvelant son alliance avec l'Éternel. Comme on devrait le faire chaque matin. Comme on devrait le faire chaque jour. Il s'adresse à Dieu maintenant. Et il dit, Éternel, que ta grâce soit sur nous comme nous espérons en toi. Seigneur, promène tes regards sur la terre. Promène tes regards. Bien sûr, on est pécheurs, Seigneur. Mais promène tes regards sur la terre et tu vas voir que je veux te plaire, que je veux marcher dans tes voies, que je veux te glorifier, que le désir de mon cœur, c'est d'attendre de toi les bontés. Et j'ai confiance, Seigneur, dans ta grâce et dans tes bontés. Comprenez-vous pourquoi ce psalmiste dit que chaque jour, un cantique nouveau devrait venir dans notre cœur? Parce que c'est Dieu qui est au contrôle. Dieu nous a montré qu'il est là par ses bontés qui remplissent toute la terre. Dieu nous a montré qu'il est souverain parce qu'il accomplit ses projets, ses desseins. Alors, il s'agit que Dieu me dise, « Yannick, tu fais partie de mon peuple pour que je sache que ses bontés vont m'accompagner. » Maintenant, je ne peux pas terminer ça sans mettre ce psaume en perspective du Nouveau Testament. Voyez-vous, cet homme qui a écrit ces lignes n'avait pas vu venir Jésus-Christ encore. Il avait vu, c'est vrai, que Dieu bénit le peuple qu'il choisit. Il avait vu que Dieu est souverain, que Dieu peut prendre une petite nation et en faire une belle et grande nation. Il avait vu que la bénédiction se trouve dans le regard de Dieu, pas dans la puissance du bras. Il avait vu toutes ces choses et il n'avait encore rien vu, je vous le garantis. Tournez avec moi dans le livre de l'Apocalypse, s'il vous plaît. Apocalypse 5. Je n'expliquerai pas toute l'Apocalypse ce matin. Mais il y a des louanges dans ce livre-là. Il y a des louanges incroyables. Apocalypse 5, verset 8. Apocalypse 5, 8. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. C'est l'agneau immolé, c'est Jésus-Christ qui est là. Parce que Jésus est cet agneau ultime, parfait, qui devait être sacrifié pour le pardon de nos péchés. Ils se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe. On est dans un contexte de louange. Et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau. Écoutez bien quel était leur cantique. tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. » Il parle de la croix ici. « Et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Béni soit le peuple que Dieu choisit. » Bien, frères et sœurs, si vous avez placé votre foi dans le sacrifice de Jésus-Christ pour vos péchés, Dieu vous a choisi. Et vous avez été choisi et racheté au prix du sang de Christ. Dieu vous a choisi et a fait de nous un peuple nouveau, une nation sainte, et son bon regard est sur nous. Craindrons-nous demain? Les épreuves de cette vie, les troubles que peuvent traverser une église devant quelque incertitude que ce soit, les épreuves que vous traversez en ce moment avec votre travail, avec la santé, avec des enfants qui n'ont peut-être pas encore pris une décision pour Christ, avec des tensions dans votre couple, avec des moments de solitude, craindrons-nous ces choses comme si le bonheur dépendait de notre force? L'Éternel qui a créé les cieux et la terre, qui a rempli la terre de ses bontés. L'Éternel qui est souverain pour accomplir ses desseins. Quand je lisais ces lignes, l'image qui m'est venue à l'esprit, c'est cette image où, lorsque le psalmiste dit que Dieu renverse les desseins des nations. Le grand paradoxe, c'est que Dieu a renversé les desseins de la nation d'Israël au moment où le peuple juif a rejeté son Messie, son Sauveur. Et les chefs du peuple avaient pour dessein, pour projet de se débarrasser de ce prédicateur itinérant, ce Jésus de Nazareth qui les dérangeait. Ils avaient un projet dans le cœur. Tassons-le de là, on va continuer à diriger ce peuple. C'est pas lui le Messie. Non, l'Éternel anéantit les projets des peuples, anéantit leurs desseins pour accomplir ses projets. Et alors même que la nation d'Israël, c'est ça qui est tellement triste dans l'histoire, avait pour projet de faire mourir Jésus de Nazareth, l'Éternel était en train d'accomplir ses desseins et de nous donner un sauveur en Jésus-Christ. Frères et sœurs, ce qui convient à nos cœurs, c'est un cantique nouveau et de la joie. Si ce psalmiste avait pu observer la fidélité de Dieu dans l'histoire d'Israël, à combien plus forte raison nous qui connaissons l'histoire de Jésus de Nazareth. Et nous avons vu toutes les prophéties accomplies en lui. Nous avons vu la souveraineté de Dieu. Nous avons vu la bonté de l'Éternel qui remplit toute la terre par ce salut merveilleux qui nous est offert. Voyez-vous, le psalmiste dit que ta grâce soit sur nous parce que nous espérons en toi. Nous espérons en Dieu parce que sa grâce a été sur nous. Nous sommes remplis d'espérance pour l'éternité, dans cette vie et pour l'éternité, parce qu'il nous a déjà fait grâce. Nous avons vu qu'il est souverain, qu'il conduit. Alors devant l'avenir de cette Église, devant l'avenir de ma vie, prenez l'avenir de l'Église ici avec l'annonce que Normand et Lise ont fait la semaine dernière. Transposez-le dans votre vie à vous. Qu'est-ce qui vous attend demain? Qu'est-ce qui vous attend dans un an? Est-ce que vous savez quel travail vous voulez faire? Je pense aux jeunes qui... C'est long aujourd'hui, hein, décider ce que tu vas faire dans ta vie. Des fois, c'est angoissant. Ma santé, vous avez des problèmes de santé. Qu'est-ce qui m'est réservé pour demain? Ces malaises-là, qu'est-ce qu'ils cachent? Qu'est-ce que le médecin va m'apprendre? Dieu accomplit ses desseins. Et ses desseins sont bons parce qu'il vous a choisi. Ayez confiance en Dieu. Dans cette vie et pour l'éternité, il a de bons projets pour nous. Il va bâtir son Église, il nous prépare une place au ciel, et nous sommes dans un pèlerinage ici. Marchons avec un cantique nouveau tous les jours sur nos lèvres et faisons-lui confiance. On va prier ensemble. Seigneur, Israël avait vu ta fidélité. Ils avaient vu que la bénédiction ne se trouve pas dans la grandeur des armées. Ils avaient vu que la bénédiction se trouve dans les projets de ton cœur, le peuple que toi tu choisis. Ainsi, Seigneur, ils marchaient dans tes voies. Ceux parmi le peuple d'Israël qui avaient réalisé ces choses marchaient dans tes voies dans un saint respect, une sainte crainte de ce grand Dieu si bon et si puissant. Nous avons connu tes bontés, Seigneur. Nous avons connu que tu accomplis tes desseins à perfection. Et que ce n'est pas le péché ou le diable ou ce monde qui va t'empêcher d'accomplir tes projets, Seigneur. Tu avais promis d'envoyer un sauveur qui nous rachèterait, nous libérerait de nos péchés, me donnerait un cœur nouveau si je croyais en lui. Tu l'as fait, Seigneur. Tu avais promis que ce sauveur ressusciterait d'entre les morts, qu'il serait le premier-né, nous annonçant un jour notre résurrection à nous aussi. Il est ressuscité d'entre les morts, contrairement à tous les prophètes, tous les soi-disant prophètes de toutes les religions de la terre. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Tu avais promis que tu nous donnerais un cœur nouveau. Seigneur, je peux confesser de ma bouche que tu m'as donné un cœur nouveau et que mon cœur languit pour vivre dans la sainteté, pour marcher dans tes voies, Seigneur. Je suis émerveillé de voir la repentance que tu places dans mon cœur. Tu avais promis que tu bâtirais un peuple nouveau, des gens de toutes les nations de la terre, sans affinité aucune, pas des descendants d'un même homme, sinon spirituellement. Et Seigneur, tu l'as fait, et l'Église subsiste, cette belle famille où nous sommes accueillis et aimés, peu importe nos affinités. Le riche et le pauvre, de toute race, de toute condition, homme et femme, Seigneur, trouve l'amour de Christ au milieu de ton Église. Tu accomplis tes desseins, Seigneur. Seigneur, nous espérons en toi, parce que si tu as fait toutes ces choses, tu seras fidèle pour revenir un jour dans ta gloire, Seigneur. Et nous nous prosternerons et un chant de louange viendra sur notre cœur, Seigneur. Rappelle-nous sans cesse tes bontés, afin que chaque jour ce cantique nouveau soit sur nos lèvres, Seigneur. Célébrant ton amour et ton salut, ta fidélité et ta bonté, Seigneur. Et nous proclamerons aux nations la grandeur de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur. Amen.